Il est 6h50 sur France Culture.
Les enjeux internationaux.
Avec vous Thierry Garcin, bonjour.
Et rebonjour Guillaume Erner. Donc, comme promis, la Syrie, Syrie-Irak, les avancées diplomatiques depuis décembre 2015, et puis tout ce qui se passe évidemment sur le terrain. Notre invité Pierre Razou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, donc l'IRSEM. Nouvelle dose diplomatique depuis fin 2015, on va le voir, et même depuis octobre-novembre. Alors, quelques dates, on a mis une courte chronologie sur le site Internet de France Culture. Si nos amis auditeurs la trouvent intéressante, on peut renouveler ces chronologies en fonction des sujets traités. Alors, en septembre donc, le discours de Poutine sur la nécessité d'une grande coalition internationale, discours à l'ONU, également le début de l'intervention militaire russe dans la foulée. En octobre, la conférence de Vienne qui incluait l'Iran et l'Arabie Saoudite, ça c'est important. En novembre, les attentats en France et le revirement diplomatique français. En décembre, à Riyad, les oppositions syriennes qui se réunissent. Et puis, le 18 décembre, c'est une date importante, au moins sur le papier, la fameuse résolution ONU 2254 sur un processus de paix. Est-ce que vous avez l'impression que les choses, encore une fois, au moins dans les enceintes diplomatiques, se dénouent, Pierre Razou ?
Je ne sais pas si elles se dénouent, mais ce qui est certain, c'est que les choses bougent un petit peu. La situation a été particulièrement gelée, on va dire, une grande partie de l'année 2015, avec l'accord évidemment sur le nucléaire entre l'Iran et la communauté internationale, entre l'intervention saoudienne au Yémen, etc. Tout cela a bougé un petit peu les normes. Là, on est dans un nouveau jeu où finalement les grandes puissances qui jouent sur place se sentent assez sûres d'elles. Donc la Russie intervient directement en Syrie pour protéger son allié, mais surtout pour protéger ses propres intérêts, parce que la Russie a des intérêts stratégiques en Syrie et sur la côte syrienne, pour empêcher ses rivaux énergétiques d'accéder à la Méditerranée, de pouvoir exporter du gaz et du pétrole en direction de l'Europe, pour lui permettre de conserver ses bases sur place, sa position assez dominante en Méditerranée orientale. Les Américains sont toujours présents, les Turcs sont très actifs, les Saoudiens aussi. Les acteurs internationaux réalisent que le régime syrien, finalement, pourrait tenir, ou en tout cas pourrait tenir une bonne partie de son territoire, que l'opposition, finalement, va avoir du mal à continuer à exister à droite.
Elle reste profondément divisée.
Et le fait même que et la Turquie et l'Arabie Saoudite aient annoncé leur possibilité, ou en tout cas leur volonté d'intervenir militairement sur le terrain, donc récemment, tant du côté turc que du côté saoudien, par l'envoi de forces spéciales aux côtés de leurs alliés respectifs en Syrie, montre bien que les choses évoluent et que chacun essaye de prendre des gages pour éviter soit, disons, une défaite humiliante de leur protégé, soit au contraire pour essayer de pousser leur pion et protéger
plus,
leur position.
Et d'autant plus dans une période diplomatique qui prévoit un processus de paix. Alors vous l'avez dit d'ailleurs Pierre Razou, donc c'était le 4 février, c'était jeudi dernier, l'Arabie Saoudite avait annoncé qu'elle était prête à participer au sol, ça c'est important, oui, au sol, à la coalition conduite par les États-Unis. Ce qui frappe dans le jeu des acteurs et la logique des acteurs, c'est la profonde contradiction de l'Arabie Saoudite et de la Turquie, et ça c'est pas nouveau.
Non, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que on est clairement dans la grande partie d'échec entre l'Iran et les États-Unis. C'est une rivalité profonde, durable, qui a commencé en 1979 avec la révolution islamique. Et en Iran, bien entendu, il y a eu plusieurs parties d'échec. Si vous voulez, c'est un tournoi. Donc la première partie s'est arrêtée en 1989 avec le décès de Khomeini. La deuxième en 2004 après l'éviction de Khatami, enfin la fin de son mandat. Et là, on est dans une troisième grande partie d'échec entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et on voit bien que l'Iran prend des avantages, commence à encercler un petit peu, à mettre la pression sur le joueur saoudien. Et les Saoudiens sont d'autant plus paniqués que, alors qu'ils pouvaient compter jusqu'à présent sur les États-Unis d'Amérique pour finalement consolider leur position, là ils s'aperçoivent que les États-Unis se retirent un petit peu du jeu pour ne plus être joueurs, mais être arbitres de cette partie d'échecs pour maintenir les équilibres dans la région.
Alors l'Arabie saoudite est, disons, impliquée dans trois coalitions. Alors la coalition évidemment contre l'État islamique, la guerre en coalition d'ailleurs contre au Yémen, et puis ils ont convoqué une coalition tout à fait récente, c'était à la fin de l'année dernière, c'était le 15 décembre, une large coalition de 34 pays musulmans, arabes et non-arabes, contre le terrorisme. Entre guillemets.
Oui,
ça fait beaucoup pour un seul homme.
Oui, bien entendu. Là aussi, c'est dû au fait que les Saoudiens, le pouvoir saoudien voit bien qu'il va devant un certain nombre de difficultés, notamment socio-économiques, parce que ce jeu-là, si vous voulez, doit se comprendre à l'aune de l'évolution du prix du pétrole, c'est-à-dire qu'initialement, très certainement, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont décidé de progressivement faire s'effondrer les prix pétroliers, une stratégie que, historiquement, ils avaient utilisée avec beaucoup d'efficacité en 1985 contre l'Iran et contre l'Union soviétique. Ça avait très bien marché. Et donc aujourd'hui, à la fois pour punir Poutine et pour, disons, amener à l'Iran à la table de négociation, Saoudiens et Américains ont dit « nous allons faire pareil, nous allons faire s'effondrer les prix du pétrole ».
Et puis pour affaiblir l'État pétrolier américain aussi.
Américain. Ça a bien marché finalement avec l'Iran, c'est en train de marcher avec la Russie, mais il y a des pertes collatérales. Donc c'est les alliés de l'Arabie saoudite et l'Arabie saoudite elle-même qui souffre puisque ses revenus sont en baisse constante alors même que ses besoins de dépenses sont en hausse constante, notamment avec les interventions militaires que vous décriviez. Donc évidemment, il y a un véritable enjeu fondamental qui est de savoir comment financer la paix sociale pour l'Arabie saoudite. Et donc on voit bien que le régime commence un petit peu à s'inquiéter. Et donc peut-être tenter à des solutions un peu à court terme pour et donner l'impression finalement de s'agiter pour essayer de trouver une solution sans véritablement savoir quelle est la bonne.
Alors Didier Billion, c'est sur le site de l'IRIS, c'est une analyse vers un début de solution politique en Syrie, point d'interrogation. On l'a mis ce texte sur notre propre site franceculture.fr. Il parle évidemment de l'implication contradictoire des puissances régionales et internationales qui se livrent en Syrie à une guerre par procuration. Fin de citation. Alors, autre chose, ce qui est intéressant, c'est quand même, vous avez tendance à le souligner, les enjeux de pouvoir, notamment en Iran.
Oui, parce que le 26 février, donc, on va avoir le premier tour des élections législatives.
Et bien évidemment, on y reviendra ici même, d'ailleurs. Oui.
Pardon ?
On y reviendra ici même.
Et bien évidemment, si vous voulez, chacun en Iran essaye d'instrumentaliser à son profit la situation géopolitique, en Syrie notamment, puisque l'Iran est très présent en Syrie et au Liban. Et on voit bien que les ultra-conservateurs veulent montrer que l'Iran n'est pas prêt à lâcher la Syrie, n'est pas prêt à lâcher son allié Hezbollah au Liban, et que donc il convient de hausser le ton, montrer les muscles et ne pas se laisser impressionner par les rodomontades turques ou saoudiennes.
Donc on avait dit en introduction, Pierre Azou, sur le papier des choses se dénouent quand même. En tout cas, il y a cette fameuse résolution de l'ONU qui prévoit donc un processus de paix, un règlement politique durable, je cite, une gouvernance crédible, inclusive et non confessionnelle, une autorité de transition dotée des pleins pouvoirs exécutifs, etc., etc., des élections d'ici à 18 mois. Bon, tout ça est évidemment ne tiendra pas la route, mais peu importe, mais au moins il y a quelque chose qui se passe.
Oui, il y a quelque chose qui se passe, donc ça c'est positif. Par contre, là où il faudrait être très vigilant et là où il faut véritablement réfléchir, c'est quelle issue pour les sunnites d'Irak et de Syrie, parce que je crois que nous restons tout de même toujours dans le cadre d'une lutte de sécession des sunnites à la fois irakiens et syriens pour savoir quel sera leur statut après Daesh, pour savoir si on leur donnera de l'autonomie, s'ils pourront prendre une certaine forme d'indépendance, etc. Donc je crois que, et derrière la question évidemment de la sécession sunnite, il y a la question des frontières au Moyen-Orient.
Oui, alors ça,
je crois que c'est le véritable enjeu.
Alors ce qui est intéressant, c'est que la résolution 2254 du 18 décembre dernier a parlé de l'intégrité, maintien de l'intégrité territoriale de la Syrie. Oui. Et ça c'est voulu heureusement par les Russes d'ailleurs, qui ont dit qu'on ne touchait pas quand même, ne s'amusait pas avec les frontières. Alors, merci beaucoup Pierre Azou, et puis demain, sans transition, nous parlerons de la Corée du Nord pour les raisons que vous savez.
Merci beaucoup Thierry Garcin.